Sam Travail, la chronique où le travail se raconte et se comprend.
Et si votre boulot racontait l'histoire d'un monde qui change ? Bienvenue dans la chronique de Sam Travail, un espace où les récits des travailleurs et des travailleuses deviennent des miroirs de nos mutations collectives. Pendant 15 minutes une fois par mois, on entre dans le vécu du travail. Je vous livre des récits que j'ai collectés, un peu de théorie pour éclairer tout ça, et je vous propose d'écouter, de comprendre et peut-être parfois de vous reconnaître dans ces histoires où le quotidien du travail croise les grandes transformations de notre époque. Aujourd'hui, je vais vous parler de Anne. C'est le prénom d'emprunt qu'elle a choisi pour son récit de travail. Elle est psychologue et elle va nous parler de son métier qui est assez mal connu. Mon métier est double, je suis à la fois psychologue et psychanalyste. C'est des métiers qui sont très fantasmés, souvent perçus d'une certaine façon ou flous dans la perception des gens. Et je trouve que ce sont des métiers qui, aujourd'hui, se heurtent de façon assez brutale à certaines façons d'envisager le monde. Je trouvais que c'était intéressant de remettre des mots et du sens sur la façon dont je vois mon travail. Je lui demande de me raconter comment elle est venue à cette profession. J'ai été diplômée en 2006, donc il y a 20 ans. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment choisi consciemment de faire ce métier. Je m'étais lancée dans un BTS communication des entreprises. J'aime bien le côté créatif et je voulais des études courtes. Et en fait, à la fin de mon BTS, j'ai eu un drame familial qui a fait que, à la fois c'était une perte, puisque mon père est mort, et à la fois c'était l'opportunité de continuer des études. Je m'étais rendu compte en fin de BTS que c'était pas du tout des études sur un versant artistique, mais c'était plutôt du commerce. Et du coup, ça me plaisait pas du tout. On avait eu des cours de psychosociaux pendant le BTS et j'avais trouvé ça intéressant. Alors j'hésitais entre psycho et sociaux. En fait, j'ai eu une validation d'acquis plus intéressante en psycho, du coup je suis allée par là. Un peu comme ça, sans vraiment y penser. Et puis en maîtrise, j'ai eu l'occasion de faire un stage dans le service fermé d'un hôpital psychiatrique. Et alors là, en fait, j'ai eu une révélation. Je me suis sentie hyper à l'aise avec des gens qui avaient un langage qu'on pourrait qualifier de fou, mais qui, moi, me parlaient. Je me suis vraiment sentie parmi les miens, avec des gens que je comprenais. Je comprenais leur folie. J'étais assez surprise de me sentir très à l'aise avec ces personnes. Je sentais que moi, j'avais eu la chance d'échapper à ça. Donc voilà, j'ai vraiment eu le goût de travailler avec des gens qui étaient dans cette souffrance psychique, en me disant que peut-être que moi, j'avais envie de les entendre et que si ça pouvait les aider, ben c'était bien. Donc c'est un petit peu ça qui m'a permis de m'orienter plutôt vers la psychologie clinique, surtout que j'ai eu ensuite des maîtres de stage qui m'ont vraiment donné le goût de cette curiosité, de cet accueil de l'autre, de cet accueil de la différence. J'ai vraiment galéré pour finir mon cursus, parce que l'entonnoir, il est à la fin. La sélection, elle se fait entre l'avant-dernière année et la dernière année. J'ai dû déposer plusieurs dossiers, plusieurs années de suite, pour être finalement reçue. C'était très sélectif. Et puis à l'époque, j'avais déjà mes enfants qui étaient petits, je ne pouvais pas aller dans des villes très éloignées. J'avais vraiment ce désir de m'orienter vers la psychanalyse, sans savoir que je serais moi-même psychanalyste plus tard. Et alors ça, c'est un autre versant de mon métier, c'est-à-dire qu'en parallèle de mes études, j'ai entamé un travail personnel de type psychanalytique, que j'ai mené pendant plusieurs années. Ça a été aussi un fondement pour moi, à la fois personnel et à la fois ça a influencé mon travail. Jusqu'au jour où, des années plus tard, et avec le soutien de mon analyste, j'ai commencé à pratiquer moi-même la psychanalyse. Après avoir fini mes études, j'ai trouvé des petits postes, c'était pas facile. J'avais une conseillère Pôle emploi qui m'avait dit que c'était vraiment pas un bon choix de faire un cursus de psychologie parce que j'allais avoir beaucoup de mal à trouver du travail. Donc tu vois, il y a 20 ans déjà, on savait que c'était quand même pas un métier très valorisé. Au tout début de mon travail, j'ai vite été recrutée par des gens qui savaient vraiment pas à quoi ça servait un psychologue. Donc il y a eu beaucoup de malentendus dans mes premiers postes, ou en tout cas des gens qui attendaient d'un psychologue quelque chose qui relevait pas d'un psychologue. J'ai vite été confrontée à des politiques de ressources humaines qui étaient vraiment, mais complètement contraires à mon éthique. On me demandait de faire des choses à des gens sans forcément leur accord, comme des évaluations par exemple. Alors évidemment, le prétexte est toujours pour les orienter dans des structures ou des services qui soient adaptés à leurs problématiques. Mais en gros, c'était tout de suite mettre des gens dans des cases. Donc j'étais confrontée à ce dilemme, c'est-à-dire pas de devoir dire non à mes employeurs, parce que pour moi, la seule demande que j'avais à respecter, c'était celle de mes patients. Et puis, avec la psychanalyse, le problème, c'est que ça nous permet d'aller travailler des choses en profondeur et que le fruit de mon travail, ça a aussi eu comme résultat des changements assez importants dans ma vie et notamment une séparation douloureuse avec le père de mes enfants. Donc ça, plus ma jeune carrière qui était difficile à mettre en place, je me suis retrouvée un jour à tout stopper et aller travailler à l'usine pendant un an et demi. J'étais vraiment dans cette dynamique de dire « je préfère travailler à être payé à ne pas penser » que d'être payé à penser et pas avoir les moyens de le faire. Et puis, comme je traversais une crise personnelle assez importante, j'avais vraiment besoin de me concentrer sur ce que je vivais et j'étais pas du tout disponible à ce moment-là pour aider d'éventuels patients. Donc j'ai fait cette sorte de bifurcation. Alors, c'était aussi une façon, je pense pour moi, de vérifier que je pouvais être autre chose et de pas trop m'identifier à mon métier. C'était important de vérifier que j'existais sans être psychologue, que j'existais quand même. Parce que c'est vraiment un métier qui nous transforme profondément de l'intérieur.
Get back!
Le métier de psychologue, c'est un métier très engageant, parce que c'est vraiment une manière d'être. Une fois qu'on perçoit certaines choses de notre manière d'être à soi-même, aux autres et au monde, c'est difficile de plus regarder le monde comme ça. On ne peut pas refermer son esprit une fois qu'il est ouvert. Je pense que mon métier, avant toute chose, il m'a appris à douter et à supporter ce doute sans que ce soit trop inconfortable. En fait, à m'en servir plutôt qu'à le subir. Donc là, tu vois qu'avec ce que je te dis, eh bien, se dessinent aussi les difficultés auxquelles je peux être confrontée aujourd'hui dans un système qui a besoin de cloisonner le réel, d'être dans le contrôle des gens, d'être dans des systèmes d'évaluation, de diagnostic. Pour moi, il y a deux mouvements antagonistes là-dedans. C'est-à-dire un mouvement qui va vers le changement, l'évolution, la souplesse, et un autre qui veut figer les choses et les contrôler. On voit bien, par exemple, dans les systèmes de soins qu'on a besoin de diagnostiquer, de compartimenter les individus en fonction de leur pathologie. On fait de tout un objet d'étude, un objet de soins, alors que moi, je vois mes missions de psychologue et de psychanalyste comme, au contraire, ouvrir l'individu à être ce qu'il est et à devenir autre chose s'il le souhaite. En tout cas, le vivant, ça change, ça bouge, ça échappe, c'est un peu insaisissable et c'est ça qui le rend vivant. Donc c'est en ça que je trouve qu'il y a deux mouvements antagonistes et que je l'ai toujours perçu dans mon travail en institution. C'est-à-dire que l'institution, sa raison d'être, c'est justement les cases dans lesquelles elle met les gens, que ce soit l'école, que ce soit les hôpitaux. Par exemple, l'hôpital psy, sa raison d'être, c'est la folie des gens. Donc pour que ça existe, il faut qu'on reçoive les gens en fonction de leur pathologie psychique. Il va falloir la nommer et y apporter des réponses. Et moi, ma raison d'être, c'est de leur permettre de comprendre ce qu'ils sont pour pouvoir devenir peut-être autre chose ou pas. Et en tout cas, ne pas se laisser réduire à ce qu'on veut dire d'eux. Donc, d'un côté, cette question de diagnostic, de soins, de prise en charge, où on vient traiter le sujet comme un objet, et d'un autre, mon boulot, qui est de le faire réadvenir en tant que sujet. Donc c'est là où il y a une contradiction et où c'est assez difficile. Et c'est en ça que je trouve que c'est politique. C'est-à-dire que mon but, c'est que les gens puissent être ce qu'ils sont ou puissent devenir ce qu'ils ont besoin d'être. C'est pas de les faire aller bien. Mon but, c'est pas que les gens aillent bien. Parce que qu'est-ce que ça veut dire aller bien? Est-ce que c'est s'adapter? S'hyper-adapter? Je pense que les dysfonctionnements sont des fois les moindres mots et qu'ils permettent à certaines personnes de supporter l'insupportable. Donc par rapport à ça, je trouve que c'est important aussi de voir ce métier comme l'accueil de la personne telle qu'elle est vraiment, sans jugement, sans demande qu'elle soit autrement. Et c'est en ça que je trouve que c'est éminemment politique. Ce début d'entretien avec Anne nous permet d'y voir un peu plus clair dans ce métier effectivement mal connu. Ses paroles nous amènent aussi à percevoir les allers-retours et les imbrications entre le métier et la personne, comment l'histoire personnelle façonne les orientations professionnelles, mais aussi comment Anne a eu besoin de re-questionner son identité hors du métier, se rassurer sur ce qu'elle était hors de son métier, tout en nous disant que c'est un métier mais que c'est aussi une manière d'être. Anne fait très souvent référence au fait que son métier est politique. On voit bien comment plusieurs personnes peuvent exercer le même métier et en même temps l'incarner de manière totalement différente. Ça s'appelle le travail vivant, c'est-à-dire toute la part de soi que l'on met dans son travail. Avec un socle commun de connaissances, de référentiels théoriques, de règles déontologiques, la personne va avoir une expérience subjective de son travail et lui attribuer un sens qui lui est propre, notamment en fonction de ses croyances, de ses valeurs, de ses représentations. Cette identité professionnelle, elle n'est jamais définitive. Elle se construit tout au long de son activité professionnelle et on va reconstruire au fur et à mesure le sens qu'on donne à son travail et l'histoire qu'on s'en raconte. Le mois prochain, on retrouvera Anne, qui va continuer à nous parler de cette sorte de confrontation entre la vision de l'institution et la sienne, notamment au travers de l'évaluation de son travail de psychologue. On se retrouve dans un mois pour une dernière chronique. Et d'ici là, ne vous laissez pas trop travailler par le travail.